L'expression vote blanc, c'est la nouvelle collection de l'Association pour la reconnaissance du vote blanc qui a pour objectif de continuer la recherche, la réflexion sur l'avancée de la démocratie électorale dans les décennies à venir en prenant le biais du vote blanc. Donc nous sommes en présence de Mme Caroline Abadie, députée de La République En Marche, qui fait connaître son soutien pour la question du vote blanc, son intérêt du moins pour la question. Et donc c'est pour cela que nous avons souhaité la rencontrer, pour qu'elle puisse nous dire exactement comment elle voit cette question et quel intérêt aurait le vote blanc pour vous, donc Madame Abadie.
Alors peut-être que je peux réexpliquer mon histoire avec le vote blanc déjà. Effectivement, quand on est arrivé la première fois dans l'hémicycle, c'était il n'y a pas encore un an, et on avait une première loi qui était de rétablir la confiance dans la vie politique. Donc elle passait par tout un tas de mesures que je ne détaillerai pas ici, que vous connaissez bien, pour essayer de mettre un peu plus de cadre et les politiciens ne reproduisent pas les travers qu'on a pu connaître par le passé. Je précise toujours que de toute façon c'était commis par une minorité de personnes et que ça entachait effectivement toute la classe politique. Au milieu de cette loi, en plein débat parlementaire, je crois qu'il était assez tard, vers minuit ou 1h du matin, il y a un amendement qui arrive sur le vote blanc, qui concernait les élections présidentielles, qui étaient posées par l'opposition, à la majorité. J'ai pris la parole dans l'hémicycle ce soir-là parce que, effectivement, vous le savez, dans l'ADN des ce qu'on appelle les marcheurs, les gens qui adhèrent au mouvement La République En Marche, il y a un fort attachement à la démocratie, à tout ce qui peut être participatif et à tout ce qui peut participer et encourager chaque citoyen à s'engager. C'est un engagement associatif, c'est un engagement citoyen, c'est un engagement politique, peu importe, mais essayer de remettre de l'engagement dans la vie de tout le monde. Et ça, je sais que c'est dans l'ADN des marcheurs, et tel qu'était posé l'amendement de notre collègue défendu par le député Vigier, il m'a semblé qu'on avait une peau de banane, quelque chose qui était un petit peu un piège politique, de « allez, moi, je vais mettre un peu tout, n'importe quoi dans mes amendements ». D'ailleurs, depuis, on voit que c'est une pratique assez courante. On met tout ce qu'on pense faire plaisir à nos électeurs. Par contre, quand on est au pouvoir, on ne le fait pas. Donc j'étais intervenue pour dire non, on ne va pas voter cet amendement, il n'est pas raisonnable tel qu'il est proposé là. C'est cette prise de parole qui a fait qu'ensuite j'ai été contactée par effectivement une radio nationale, France Inter, pour m'exprimer sur le sujet. Et quand on en a parlé sur ce plateau avec M. Vigier, on est tombé d'accord sur le fait que oui, il faut réfléchir au vote blanc, qu'on ne peut pas laisser l'abstention grandir comme elle grandit de façon galopante depuis des décennies, sans réfléchir à comment mieux reconnaître le vote blanc et comment lui donner du poids politique. Aujourd'hui, on le reconnaît dans le sens où, depuis 2014, on le chiffre, on le distingue du vote nul, mais on ne lui a pas donné de poids. Après, vraiment une question qui est très épineuse, qui nécessite énormément de réflexion, parce qu'il ne faut pas se retrouver dans certaines impasses du type on annule une élection et puis derrière, on a une impasse politique et il ne se passe rien pendant... Imaginez qu'une élection soit annulée, qu'est-ce qu'on fait? On demande, parce que si vous voulez le faire pour le président de la République, je pense qu'il faut aussi le faire sur d'autres élections. Alors qu'est-ce qu'on fait sur les autres élections ou même sur le président de la République? Est-ce que le président de la République continue son mandat? Est-ce qu'il ne le continue pas en attendant qu'on refasse des élections? Est-ce que les mêmes candidats ont le droit de se représenter? Il y a énormément de questions que, je suppose, vous avez bûché, vous, association qui militait en ce sens depuis des années, mais moi, depuis un an, je n'ai pas eu le temps de me poser toutes ces questions-là, ni d'y répondre. Donc, Je le redis, je suis favorable à ce qu'on prenne en compte cette question, effectivement, qu'on aille au bout de la réflexion pour voir s'il y a quelque chose de faisable pour endiguer l'abstention et favoriser la reconnaissance du vote blanc. Voilà ma prise de position sur la question.
Et c'est une position qu'on apprécie et qu'on essaie de voir, aller voir le plus loin, mener le plus loin possible. Mais vous n'êtes pas soutenu pour l'instant, par exemple, par l'exécutif. Parce que quand on a la réponse du ministère de l'Intérieur, donc actuelle, on a comme réponse une réponse très technocratique à une question sur le vote blanc. Donc d'où vraiment la nécessité de ramener les gouvernements, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a vu ce changement, on peut dire, avec ce siècle-là. Quand on retrouve des réponses des gouvernements dans les années 90, elles ne nous satisfaisaient pas, puisqu'ils étaient là pour toutes les difficultés que pourrait représenter le vote blanc, mais ils ont été amenés à dire qu'est-ce que c'est qu'une élection. Et ça nous permettait, nous, de voir où était le mal. Parce qu'on nous disait, ministre de l'Intérieur, les différents, Chevènement, Debré, c'était une élection, ça sert uniquement à désigner un vainqueur. Et je pense que c'est là l'erreur, et c'est là la désaffection de l'électorat, c'est qu'à partir du moment où une élection devient systématiquement utilitariste, eh bien je peux ne pas me déplacer puisqu'il y aura un vainqueur. Je ne me déplace pas, ce n'est pas ça qui empêchera un vainqueur. Donc à vouloir transformer comme ça l'élection comme purement ce qui va arranger un état-major d'un parti, moi j'ai besoin pour la prochaine élection que les gens votent forcément pour moi, qui viennent voter pour moi. On comprend que depuis 30 ans, les électeurs se détournent de ce genre de consultations qui n'en sont pas vraiment. Et là, ça n'apparaît plus. Dans le nouveau, pour la troisième fois, on a eu ça avec le gouvernement de François Hollande, le tout premier ministre de l'Intérieur. On n'en voit pas à chaque ministre de l'Intérieur, parce que sinon, il change trop souvent. Mais c'est que des aspects très techniques qui pourraient se résoudre sans problème. Moi, je leur donne la solution, hein. Mais pour eux, ça bloque, c'est-à-dire si vous mettez le vote blanc pour les élections, pour savoir qui va avoir droit au financement, il y a un seuil, ça fait monter le seuil, pour savoir qui va être élu au second tour, par exemple, à des législatives. D'ailleurs, même si législatives, je crois que c'est au nombre d'inscrits, non pas au nombre de suffrages exprimés. Donc, ils ne nous donnent que des problèmes très techniques qui pourraient être résolus par un technocrate, pas de problème. Et donc, c'est pour ça qu'il me semble que la réflexion doit être relancée, que les parlementaires doivent la relancer pour que, justement, dans des exécutifs, dans des états-majors de cabinets ministériels, on se remette vraiment à poser la question. Donc, c'est pour ça, quand vous voyez, vous, venir la future réforme, révision constitutionnelle, je vous ai vu sur un plateau d'une télé avec un sénateur républicain et une députée républicaine, où il était annoncé simplement la limitation des amendements. Vous avez dit vous-même qu'en effet, très souvent, ça part dans ça ne veut plus rien dire, réduire le nombre de parlementaires, et ensuite la proportionnelle. Est-ce que ça suffit pour dire qu'on on passe au XXIe siècle, on a une population qui est différente, ou est-ce que j'ai oublié des aspects de la réflexion du gouvernement, de notre président, et que vous pourriez me rappeler, ou est-ce que vraiment ça se limite à ça, ce qu'on nous annonce?
Alors, déjà, pour revenir sur la question du détournement des citoyens par rapport aux élections, c'est pas seulement le mode de scrutin qui fait qu'il y a une désaffection des citoyens par rapport aux élections. Sinon, on aurait eu les mêmes taux d'abstention dès 58. Donc, je pense que c'est pas que ce levier-là qu'il faut actionner. Je comprends que ce soit sur celui-ci que vous soyez positionné, mais c'est pas le seul. Si vous avez une réponse technocratique du ministère de l'Intérieur, c'est certainement que eux, baignés dans la machine électorale, ils connaissent toutes les forces et les faiblesses de notre de tous nos modes de scrutin à tous les échelons. Et je serais bien incapable de vous répondre sur ces questions-là, parce que justement, je vous le dis, moi, je me suis pas beaucoup plus penchée sur la question que ça depuis un an. J'ai juste un intérêt pour la question parce que le vote blanc, ça me semble être un levier, mais effectivement, s'il n'a pas été actionné depuis des décennies, alors que tout le monde, par contre, est prêt à le voter quand ils sont dans l'opposition, c'est qu'il doit y avoir quand même quelque chose de techniquement compliqué, même si vous disiez que vous pouviez lever tous ces barrages. La réforme constitutionnelle fait partie de notre programme. On a fait campagne sur ces réformes que nous allons mettre en œuvre. Donc, que je sois la seule à me dire « tiens, le vote blanc, c'est intéressant » ou qu'on soit plusieurs dizaines ou plusieurs centaines, ça n'était pas spécifiquement dans notre programme. Donc, il ne faut pas non plus attendre de nous aujourd'hui qu'on le fasse passer dans une réforme qui ne l'annonçait pas. Maintenant, le faire sans se préparer, ça serait encore plus irresponsable. Voilà. Dans cette réforme constitutionnelle, on limite le nombre d'amendements, et encore, ce n'est pas vraiment ça qu'il faut dire, c'est on filtre mieux les amendements qui, de toute façon, aujourd'hui, sont retoqués parce qu'ils ne sont pas dans le cadre. Voilà. Donc, on ne va pas limiter, on ne va pas mettre un nombre, un quota d'amendements. Donc, le droit d'amendement n'est pas du tout bridé par rapport à cette réforme. La proportionnelle, le nombre de parlementaires, moi, je trouve ça plutôt des leviers intéressants, justement, pour faire évoluer notre démocratie. Vous disiez que rien ne bougeait depuis plusieurs décennies, ou alors on essaie de faire bouger certaines choses. En tout cas, ça, on l'avait annoncé dans notre campagne et on va s'atteler à faire ces modifications.
Alors, on peut prendre vraiment l'exemple de la proportionnelle, puisque la proportionnelle a déjà été appliquée à l'époque de François Mitterrand. Ce n'est pas la première fois qu'il y en a. Et pour nous, chaque fois, on le considère, nous, comme une réforme du statut de l'élu, hein, c'est-à-dire comment va-t-il être élu. Ça ne concerne pas l'électeur. La proportionnelle, elle peut concerner l'électeur, parce qu'il est prisonnier de la proportionnelle comme il est prisonnier du scrutin majoritaire. C'est-à-dire que si un état-major a décidé, comme ça se passe depuis longtemps aux européennes, il y a quelqu'un, il a été battu, il faut le recaser, il ne s'intéresse pas du tout à l'Union européenne, et on le met pour qu'il ait un poste, et on a Rachida Dati qui se retrouve élu. Donc l'électeur de ce courant de pensée, il peut vouloir voter pour ce parti-là, mais se dire, je voudrais qu'il y ait vraiment des gens motivés par la mission qu'il va leur confier, non pas des gens qui y sont parce qu'il faut les caser. Et donc, ce qui permettrait ça serait le panachage, qui a disparu de nos élections depuis un moment. Il existait un petit peu encore dans les élections municipales, dans les toutes petites communes. La loi de 2014 a supprimé ça pour les communes de 1500 à 3500 habitants. Donc, on voit qu'on laisse de moins en moins de liberté à l'électeur. Dans ces communes, l'électeur pouvait écrire, il pouvait barrer. Voilà, c'était l'électeur qu'on considérait comme un grand garçon, une grande fille, à qui on fait confiance. On lui dit, voilà, on vous laisse le stylo. On a supprimé parce qu'on veut à tout prix revenir à... Il y a un choix, il y a un papier, point, on le choisit ou non. Et je pense que la proportionnelle qui vient ne prévoit absolument pas que l'électeur puisse barrer en disant, oui, moi, je veux voter pour tel parti, mais je ne veux pas de cette personne-là. Si on en était là... En effet, on pourrait dire qu'on revoit la façon de concevoir l'électeur. Et donc, ça serait le statut de l'électeur. On ne réfléchit pas sur le statut de l'électeur, jamais. On n'a jamais. Je pense qu'on l'a fait en 1913. Pendant 30 ans, on a réfléchi pour savoir s'il fallait un isoloir ou une urne. 30 ans, pendant 30 ans, les gens ont dit non, c'est pas bien, vous allez rendre. Les gens, ça va être fou. Et puis, c'est passé en 1913 et depuis, plus personne n'a dit que c'était mauvais. Mais depuis, on ne réfléchit plus à ce qu'on peut donner à l'électeur. Voilà. Et j'ai l'impression, dans ce que vous me dites, que ça va, en effet, peut-être faire avancer un petit peu pour les élus, mais l'électeur, il ne va pas voir le changement après la révision constitutionnelle.
10 millions d'électeurs qui votent Front National. Pas de groupe parlementaire Front National. 8 députés, je crois, de mémoire. Vous croyez que les 10 millions d'électeurs qui ont voté le Front National trouvent ça normal que leur courant de pensée, que je combats hein, sur le plan des idées, ne soit pas représenté dans l'Assemblée nationale? Franchement. Moi, je trouve que statut de l'électeur, je trouve très intéressant votre réflexion et j'ai très envie d'en discuter avec vous. Mais dire qu'il n'y a rien qui est fait pour que justement notre démocratie soit un peu plus représentative des courants de pensée qui traversent notre pays, on a le courage de le faire. On va le faire et peu l'ont fait. Donc on peut au moins reconnaître ça. Après, ça résout pas le problème de personne. Mais de toute façon, ça, c'est pris depuis très longtemps. Les partis politiques envoient aux européennes les personnes à récompenser ou les cages dorées, ou je ne sais pas si c'est une récompense ou un piège. J'avoue que jusqu'ici, ils sont très, très peu intéressés. Très, très peu intéressés. Ça fait partie des pratiques. Il y a aussi, ça fait aussi partie des hommes et des femmes et des hommes de différents mouvements politiques. C'est de leur responsabilité d'envoyer quelqu'un qui s'intéresse à l'Europe. C'est ce qu'on va faire. Nous, on n'est pas en train de se dire qui on récompense, qui ou qui on punit. Jusqu'ici, on s'est toujours demandé si c'était une récompense ou une punition. Très franchement, c'est ni l'un ni l'autre. C'est une mission qui est hautement plus importante que toutes les élections qu'on peut avoir. L'élection européenne, c'est la plus importante quasiment de toutes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il faut réformer l'Europe. Si on ne réforme pas l'Europe, tout le monde va au casse-pipe. Donc, moi, je trouve que par rapport à votre discours, on en fait beaucoup. Voilà.
Pour finir, donc, pour la proportionnelle, en effet, nous, on n'est pas contre 15%. Je pense que le Front National lui-même trouvera que ce n'est pas assez et qu'on ait des proportionnelles plus larges comme il y a dans d'autres pays, pourquoi pas. Mais c'est qu'on se limite à ça et ensuite, on oublie ce que je rappelle. Ensuite, pourquoi pas 50% à la proportionnelle et puis la possibilité de panachage. Donc, ça veut dire qu'on aura aussi pensé à l'électeur. Donc, cette révision constitutionnelle approche. Il est fort probable que des parlementaires à l'Assemblée et au Sénat vont proposer des amendements sur le vote blanc. Ils vont être retoqués comme ils l'ont été au mois de juillet 2017. Je ne sais pas si vous, dans le groupe La République En Marche, vous pensez faire quelque chose dans ce sens. Mais une fois que ça sera passé, d'ici la fin du premier mandat du président de la République, il n'y aura plus véritablement d'occasion d'en parler. Donc, est-ce que ça veut dire que les 5 ans 2017-2022, pour le vote blanc, ce ne sera pas vraiment passé grand-chose?
Ce n'était pas dans le premier programme, mais si le deuxième programme est un copier-coller du premier programme, ça ne sert à rien de revenir une deuxième fois au pouvoir. Donc, to be continued, j'ai envie de dire.
Merci.